Salut tout le monde, salut, ça va, bien la forme, ouais, tranquille, ça va, wesh, bien. Bon alors, on m'a demandé aujourd'hui de refaire un petit billet d'humeur. Ok, bah le seul problème c'est que mon humeur aujourd'hui elle est pas bonne. Pourquoi ? Bah j'ai mes raisons. Et je vais essayer de vous citer ça de manière explicite. J'en ai marre que sous prétexte on soit universitaire, eh bien les gens ne comprennent pas ce que l'on dit. Ça commence à me pomper quand on me demande tous les 4 matins, alors cette thèse elle avance Ça commence à me beurrer de passer une journée entière à écrire 3 pages de ma thèse et de me rendre compte qu'à la fin, en fait, ça avait strictement rien à voir avec mon sujet. Ça me cire le rouleau de commander un livre, d'attendre 3 semaines, l'ouvrir, le lire et de rendre compte que finalement, il n'y avait que le titre qui était en rapport avec ma thèse. Ça m'énerve d'avoir appris l'arabe classique alors que personne ne parle l'arabe classique. Ça commence à jouer avec mes nerfs, que les gens saouls pensent avoir une bonne idée pour ma thèse. Si, tu devrais regarder ce documentaire sur internet, là, il y a les Illuminati. Et que le mec bourré résume mon travail. Ah, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu montres que les Arabes, ils sont gentils. Je supporte plus les gens qui sont d'accord avec personne et qui pensent que le problème, c'est les autres. Et j'en ai marre des gens qui citent mal Jean-Paul Sartre. Elle est dure à comprendre, ça, là, au début. Ça me chauffe les oreilles quand tu dois choisir un coiffeur. Alors soit tu vas chez un vieux et t'as une coupe de vieux, soit tu vas chez un jeune et t'as la même coupe que tout le monde. J'en ai plein le derche que sous le prétexte que ma thèse c'est sur le Qatar, tout le monde me parle du PSG. Et j'en ai vraiment marre d'aimer le PSG. J'en peux plus des gens qui disent que séquestrer ces gentils patrons, bah c'est quand même un peu violent. Je parle même pas des mecs qui ont des bonnets bombe marlés sur les pistes de ski, des mecs qui ont des patinettes, des mecs qui ont des furets. J'en ai marre de l'hiver, j'en ai plein les bases que le festival du court-métrage soit en février et qu'on soit obligé de se peler à l'Electric Palace. J'en ai ras-le-bol des solos de musique qui durent 35 minutes. Ce qui commence à me créer vraiment l'urticaire, c'est que quand tu pars en Europe avec ton Citroën J5, c'est pour voir du paysage, pas pour voir tes autres potes au Camtar dans les auberges de jeunesse à Zurich à parler un anglais pourri. J'en ai marre des canons de beauté aujourd'hui pour les femmes, soient plus proches de la trithérapie que des courbes de Marilyn Monroe. J'en ai marre qu'on me parle de collègues et pas d'amis. J'en ai marre des mecs qui font de la slackline. J'en ai marre du camping. J'en ai marre de l'électro-minimaliste. Ça me ligera que ce soit toujours les super-héros qu'on voit au cinéma. Ça me saoule que les Parisiens, ils parlent en dollars et pas en euros. J'en ai marre qu'on me dise « Ouais, je suis fier, j'ai fait mon premier mariage gay. J'en peux plus de faire des blagues racistes. » Parce que, en fait, je sais jamais en face de moi si la personne, elle rit parce qu'elle a de l'humour ou parce qu'elle est bien vraiment raciste. Et j'en ai vraiment marre de plus pouvoir faire des vraies blagues racistes. J'en ai ras la casquette des gens qui ont tellement de vues, quelquefois, des choses, soient convaincus qu'ils aiment vraiment ces choses-là. Ça me tue les photos des petits bébés de mes potes sur Facebook. J'en ai plein les dents de devoir donner des cours d'orthographe en TD. Ça commence à me saouler de voir toujours les mêmes vidéos sur YouTube. Ça commence à vraiment me siphonner que pour aujourd'hui être un mec drôle, il faut se filmer tout seul dans sa salle de bain et faire des montages très très rapides. Et enfin, surtout, j'en ai marre de me sentir obligé de pas aimer quelque chose juste pour montrer que je veux devenir intellectuel.
C'était le billet d'humeur de Victor Valentini qui était de très mauvaise humeur et Bravo. Filmé tout seul dans un studio de radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est Barbara sur Radio Campus pour une édition spéciale de l'émission Quoi de Neuf Doc, qui n'est pas très représentative vu le billet d'humeur, mais c'est une émission spéciale Saint-Valentin. Une Saint-Valentin peut-être un petit peu décalée vu l'humeur de l'émission, et en tout cas plus scientifique que commerciale. Alors si cette émission a commencé par le billet d'humeur donc de Victor, doctorant en sciences politiques au Centre Michel de l'Hôpital de l'Université d'Auvergne, la suite sera un petit peu différente, je dirais même très différente, puisqu'on commencera par une chronique patience, réalisée par Noémie Mermet, doctorante en neurosciences, et consacrée à un état dont tout le monde a au moins entendu parler. Non, je ne parle pas de la mauvaise humeur de Victor, mais je parle bien de l'orgasme. Pour que l'état de tension provoqué par une telle chronique ne se prolonge pas trop, je ne souhaite pas perdre les chroniqueurs ni les auditeurs. Nous reviendrons ensuite sur nos classiques avec le 8 minutes avec. Arthur Chassagnol interviewera Yacouba Samoura, doctorant au laboratoire de mathématiques en probabilité statistique. Quel lien avec la Saint-Valentin ? Vous saurez tout à l'heure. Une fois cet intermède passé, nous reviendrons au cœur de la thématique de cette émission puisque Clément Matona, doctorant au CERDI, consacrera sa chronique « Avez-vous lu à l'ouvrage de Jared Diamond ? Pourquoi l'amour est un plaisir ?» Puis les choses se corseront un peu puisqu'Alice Julliet, doctorante en droit privé au Centre Michel de l'Hôpital, évoquera plutôt les dérives de l'amour et traitera de la passion et du crime passionnel dans sa chronique « Société en marche ». Ensuite, pour finir cette émission en apothéose, nous parlerons de l'agenda des doctorants et ferons le point sur les événements de ce mois-ci, mais surtout des choses à faire pour une soirée Saint-Valentin idéale. En tout cas, selon nous. Je ne souhaite pas vous laisser en haleine plus longtemps, je vous suggère donc de commencer sans plus attendre et d'accueillir Noémie.
Patience.
Bonsoir Noémie.
Salut Barbara, bonjour à tous.
Alors, bientôt la Saint-Valentin, donc tu vas nous parler de l'amour avec un grand A ce soir, je suppose, ou avec un grand O.
Oui, mais bon, chers auditeurs, vous commencez à me connaître désormais, hein. Vous vous doutez bien que si je vous parle d'amour, ce ne sera pas avec des pincettes, mais avec deux solides ciseaux à disséquer.
Tu vas donc plutôt démolir la magie de l'amour.
Oh Barbara, la magie de l'amour, au départ, l'amour, c'est une histoire de cerveau, d'hormones et de neurones, c'est tout, hein. Aujourd'hui, les nouvelles techniques d'imagerie offrent une réévaluation de notre façon de voir notre comportement en tant qu'être humain, et en particulier le comportement amoureux. Car vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que depuis l'origine de l'espèce humaine, l'amour est une entité comportementale propice, voire essentielle, à sa survie et par conséquent bien ancrée dans sa biologie. Et une analyse sans indulgence de l'amour, telle qu'elle est possible de nos jours, révèle des aspects nettement plus utilitaires et calculateurs, ceux d'une mécanique cérébrale bien rodée qui ne laisse pas grand-chose au hasard.
Alors, tu ne parles pas de Saint-Valentin commercial, mais scientifique. Toi, tu nous parles d'amour, mais pas de magie.
Oh bah oui, au départ, le choix de l'amoureux se fait selon des critères qui révèlent crûment des objectifs matériels, rien de magique là-dedans. La femme est jugée selon sa fécondité et l'homme d'après sa forme physique et son niveau hiérarchique dans le groupe. La beauté, qui fait l'objet de tant d'éloges chez les poètes, n'est en fait qu'un étalage de marchandises. Taux d'hormones en circulation, état de santé, âge, fonctionnement du système immunitaire, tout ceci traduit par la courbe du corps et la forme du visage. Donc messieurs, si vous trouvez Barbara canon, c'est que selon vos critères, elle est physiologiquement apte à être fécondée. En gros, l'attirance réciproque de deux individus résulte d'un marché inconscient conclu entre deux cerveaux préprogrammés pour chercher l'autre et entamer une histoire à deux, ce qui détonne un peu avec les contes de fées, n'est-ce pas ?
Oui, carrément. Donc en gros, on serait programmé pour tomber amoureux de notre partenaire en vue de procréer.
Oui, en fait, tomber amoureux est sous le contrôle de processus programmés par nos gènes et par des sensibilités qui nous sont propres, mais tout ceci sans volonté en tant que tel, de notre part. Et malheureusement, d'une façon tout aussi automatique, toujours par la programmation inscrite dans les gènes de notre espèce, notre physiologie de l'amour finit petit à petit par perdre son effet et par se taire. Notre cerveau amoureux revient dans son fonctionnement de base. Et tout ceci intervient en général au bout de 3 ans à cause de phénomènes physiques qui ne doivent rien à la volonté ou aux qualités du partenaire, mais qui doivent tout à la physico-chimie des hormones, de leurs récepteurs et du génome humain. Pour recadrer tout ça dans un contexte éthologique, en gros, dans l'environnement naturel, donc celui où l'homme avec un grand H était soumis aux forces de l'évolution, le retour au fonctionnement de base du cerveau signait la fin de l'histoire d'amour. Les deux partenaires, avec un peu de chance, avaient eu le temps de mettre au monde un enfant et de l'élever au-delà du stade de grande vulnérabilité. L'entité biologique couple avait en fait rempli sa fonction. Donc pour être plus réaliste, on devrait signer les contes de fées par « ils vécurent heureux et eurent un enfant, si fécondité ».
Ouais, donc en gros, ça veut dire que la vie commune s'arrête au bout de 3 ans, puisque nos gènes n'ont rien prévu pour la suite.
Oui, en quelque sorte. Vous avez sans doute remarqué qu'à notre époque, l'amour se termine souvent par un divorce, dans 40% des cas en France, ou au mieux dans le cabinet d'un conseiller conjugal.
Donc en gros, t'es en train de dire que ce qui est de la longue et harmonieuse vie à deux à laquelle nous pensons tous avoir droit, c'est loupé, alors que toi-même, tu es en couple depuis beaucoup plus de 3 ans.
Loupé ? Moi, ne sois pas défaitiste, Barbara. Au contraire, c'est finalement là que le vrai amour peut commencer. Disons qu'au bout de 3 ans, la phase 1 de l'amour, donc automatique, dans un couple, se termine. Ensuite, au couple de voir s'il est opérationnel pour entrer en phase 2, qui correspond à l'amour intime ou amour à long terme.
Et là encore, c'est une histoire de chimie ?
Oh bah évidemment, la neurobiologie joue toujours un rôle, d'autant plus dans cette deuxième phase. Rappelez-vous d'une chronique sur l'attachement que j'avais faite il y a quelques temps. Je vous avais parlé de l'ocytocine, qui est l'hormone responsable du sentiment de bien-être que l'on ressent près de son partenaire. Pour résumer, l'ocytocine est libérée lors des caresses, des baisers, des massages. C'est vraiment, elle, la clé de l'attachement à long terme. Et vous savez à quel moment la libération de l'ocytocine explose ? Je vous le donne en 1000. Pendant l'orgasme. En gros, pour jouir d'amour, jouissez tout court.
Et alors l'orgasme, comment ça fonctionne, Noémie ?
C'est un mécanisme extrêmement sophistiqué. Au commencement, il y a le désir. Le désir naît de stimuli exogènes. Une odeur, la vue de son homme moulé dans une chemise légèrement déboutonnée. ou de stimuli endogènes. Une pensée ou imaginer son homme moulé dans une chemise légèrement déboutonnée. Oui, j'adore les chemises. Ce désir active le système dopaminergique, donc des régions de notre cerveau vont alors sécréter de la dopamine, créant ainsi un sentiment plaisant et une attente de récompense. Et comme ce désir est sexuel, une autre région du cerveau, l'hypothalamus, va produire une hormone, la GnRH, qui va activer l'hypophyse et à son tour, celle-ci sécrète deux hormones, la LH et la FSH, qui se fixent sur les ovaires ou les testicules. En retour, ovaires et testicules vont produire de la testostérone qui va remonter au cerveau pour stimuler le cortex. Celui-ci va alors générer encore plus d'imagerie mentale, des fantasmes sexuels, des pensées érotiques. Puis, par des baisers, des caresses sur la bande-son de 50 nuances de Grey, le désir se mue en excitation sexuelle. La dopamine et la testostérone sont toujours à l'œuvre. Une nouvelle hormone, la mélanocortine, va se fixer sur l'hypothalamus, qui, en réponse, va sécréter du monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote entraîne la dilatation des organes génitaux, pénis et vagin, enfin prêts à collaborer ensemble. À ce moment-là, la stimulation des zones érogènes entraîne l'excitation des nerfs périphériques et du nerf vague qui active plusieurs noyaux cérébraux. L'onde se propage dans les réseaux de neurones, déchaînant une tempête électrique. C'est le pic du plaisir sexuel, l'orgasme. Le cerveau est en épilepsie partielle. Et soudain, c'est l'apaisement. Les corps s'essoufflent et se délassent. Et l'ocytocine, notre fameuse hormone de l'attachement, inonde notre organisme et fera du couple fraîchement ébahi le couple le plus amoureux du monde. Excellente soirée à vous.
Sur Radio Campus au 93.3 et venez de passer quelques minutes agréables, voire très agréables, sur le son trou de Spandau Ballet, choisi par Noémie et juste pour vous. Après tant de douceur, je vous laisse reprendre vos esprits et confie l'antenne à Arthur, qui a une voix beaucoup moins sexy que Noémie quand même, pour un nouveau 8 minutes avec.
8 minutes avec.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 8 minutes avec Yacouba Samoura. Yacouba, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc Yacouba est mathématicien, chercheur en probabilité statistique au laboratoire de mathématiques sur le campus des CESO. Donc aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu de maths, j'espère que ça va être plus facile à comprendre que certains juristes. Là c'est un peu la pression pour les matheux ici. Donc Yacouba, ben, je vais énoncer ton sujet de thèse, comme c'est un peu la coutume, et puis tu vas essayer d'expliquer à tout le monde un petit peu ce qui se cache derrière tous ces termes un peu compliqués.
On verra bien.
Donc Yacouba travaille sur l'estimation de la validité pour des diffusions...
Volatilité.
Volatilité, autant pour moi, voilà, même les économistes font m'engueuler. Estimation de la volatilité pour des diffusions observées à des temps aléatoires, grande déviation et déviation modérée.
Exactement.
Yacouba, à toi.
Ben voilà, la volatilité, c'est comme en finance... C'est l'élément qui mesure effectivement le risque. Lorsque vous avez un actif financier et que vous essayez de voir si vous devez investir dans cet actif ou pas, vous mesurez ce qu'on appelle la volatilité. Et plus la volatilité est élevée, plus on dit l'action est risquée, mais la chance de faire du gain d'argent est élevée aussi et le risque de perte aussi est élevé. Et moi, je travaille pour estimer cette volatilité.
D'accord. Alors, du coup, tu travailles quand même sur des mathématiques qui ont des applications assez directes. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ces applications. Et est-ce que toi, tu es confronté à des milieux comme la finance, etc., où tu restes vraiment sur des mathématiques fondamentales sur ta recherche de tous les jours ?
Aujourd'hui, comme vous le savez tous, pour parler de la pratique, il faut passer par la théorie. Et moi, je suis du côté de la théorie. Mais en même temps, c'est en relation avec les gens qui l'utilisent pour pratiquer, pour estimer la volatilité de certaines choses. Et l'application directe, par exemple, on peut imaginer les assurances. Une assurance, son objectif, c'est de faire du gain d'argent, bien sûr, sinon ils ferment. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des revenus qui sont fixes. Ils savent combien d'argent ils ont par mois. Mais les dépenses... sont variables, c'est ce qu'on appelle des variables aléatoires. Ça varie en fonction des individus qui sont risqués ou pas. Et ils essayent, qu'est-ce qu'ils essayent ? Ils essayent de maximiser le gain, c'est-à-dire en minimisant leurs dépenses. Et exactement mon sujet, c'est de voir ça, comment fixer un coût de revenu fixe, de sorte que durant un grand mois, on arrive à faire moins de dépenses que de revenus.
D'accord. Donc, je vois que tu essaies de rentabiliser un petit peu au maximum le fonctionnement, donc par exemple, d'assurance. Est-ce qu'il
oui.
y a des applications, j'imagine, dans la finance plus généralement? Mais est-ce que tu es en contact, je veux dire, très régulier avec des gens de ce domaine-là? Est-ce qu'il y aurait une boîte d'assurance ou un secteur privé en particulier avec qui tu aurais des contacts ou tu sais que tes recherches seront utilisées à ces fins-là, mais sans être vraiment en contact avec ce milieu-là?
Je sais que mes recherches sont utilisées à ces fins-là, mais je ne suis pas en contact avec eux.
Alors, du coup, ce qui m'intéresse, c'est peut-être, du coup, après la thèse, à partir du moment où tu as ces compétences mathématiques qui sont pas mal recherchées aujourd'hui, est-ce que tu as envie de continuer dans cette recherche fondamentale, dans des labos de maths, etc., ou est-ce que tu peux être approché par ce genre d'enseigne et avoir envie de travailler plutôt dans le secteur privé avec de la recherche et développement dans ces secteurs-là?
Exactement, je crois bien. J'aime bien la recherche fondamentale, mais j'aimerais bien passer à autre chose, c'est-à-dire en appliquer, et si possible, dans l'enseignement aussi, si possible.
D'accord, alors du coup, sur ce côté un peu professionnel, je vais en profiter pour parler peut-être un petit peu de ton parcours,
oui.
Parce que, donc, que tu nous racontes un petit peu... Ton parcours, et en particulier, je crois que tu as eu des expériences d'ingénieur stagiaire que j'aimerais bien que tu nous racontes pour voir un petit peu cette dualité entre l'ingénierie et là la recherche en maths appliquée pour le coup.
Écoute, je ne sais pas, les maths appliquées, c'est-à-dire la recherche.
Par exemple, dans ton parcours, je crois que tu as fait des stages d'ingénieur, par exemple, à Joie, au commissariat à l'énergie atomique.
Exactement.
Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu as aimé ce type de stage? Est-ce que tu préférais la recherche? Enfin, comment tu vois ces deux activités-là un petit peu?
Bah, écoute, ces deux activités, en général, les gens, ils pensent que faire de la recherche et être ingénieur stagiaire, c'est des choses qui sont différentes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence parce que même étant ingénieur stagiaire au CEA, il fallait d'abord passer par la théorie. Il y a des bases théoriques qui sont indéniables, qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre pour pouvoir après appliquer, analyser, implémenter des codes.
Parce que donc en pratique, au commissariat à l'énergie atomique, tu faisais quoi en fait pour eux?
Je travaillais sur un code. Et moi, c'était de l'analyser et après de l'implémenter dans un autre langage, c'est-à-dire en Fortran, des codes qui vont être un peu plus... Là, je vais vraiment parler de quelque chose un peu plus précis. C'était de faire de l'explicite et de l'implicite pour ceux qui font des EDP et ils vont comprendre. Du coup, je travaille sur le code et on essaie de faire le stockage de déchets nucléaires.
D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc EDP, c'est équation aux dérivées partielles. Donc, si vous avez vu les dérivées peut-être en lycée, donc c'est des équations dont les inconnues sont des fonctions et qui font intervenir l'ensemble de leurs dérivées.
Exactement.
Alors, du coup, pour finir sur ce parcours un petit peu, donc tu as fait une L3 et puis donc un master en mathématiques, mais à quel moment tu as fait le choix de faire une thèse? Est-ce que tu avais toujours envie d'aller jusqu'à Bac plus 8 ou est-ce que c'est après différentes expériences, notamment ces expériences d'ingénieur, que tu as décidé de continuer en thèse?
Bah, cela remonte à l'enfance parce que, étant petit, j'avais un oncle qui était enseignant et je le voyais tout le temps, ses métiers me passionnaient. Et pour devenir un professeur ou un enseignant à l'université, il faut passer par une thèse.
D'accord, donc c'est vraiment une vocation depuis
tout petit. C'est une vocation depuis tout petit.
Alors, pour terminer, on arrive bientôt à la fin de ces 8 minutes. Pour un petit peu faire lien avec le thème du jour, je ne sais pas ce que tu as à nous dire, mais est-ce que, j'ai envie de te demander, est-ce que les mathématiques, ça aide pour séduire et pour draguer? Enfin, est-ce que tu mets ça en avant ou est-ce que c'est pas très utile? Alors, peut-être que les filles présentes auront d'autres avis, mais...
Après, ça dépend. Et on peut considérer une femme et un homme, l'élément qui se trouve entre eux comme une variable aléatoire, ça varie d'une femme à une autre. Du coup, je pense que la mathématique, ça aide. Du moment où quand tu dis tu fais une thèse en probastat, déjà une fille, elle s'est dit « waouh ». Elle a un peu d'admiration. Et l'admiration, on sait bien que ça crée un peu de confiance. Et lorsqu'il y a de confiance...
D'accord,
c'est possible que ça marche.
Donc là, nos auditeurs ne voient pas, mais après cette question, il y a eu un grand sourire sur la tête de Yacouba. Donc, donc je pense qu'on va arrêter cette chronique sur ces mots-là et on va se quitter avec la musique donc, choisie par Yacouba, qui est « La différence » de Salif Keita.
Je suis un noir. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir et moi j'adore ça. C'est la différence.
d'écouter l'hymne à la différence de Salif Keita. Il est 18h27 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc, émission spéciale Saint-Valentin. Tellement spéciale que Clément ne nous parle plus d'économie mais d'amour dans sa chronique « Avez-vous lu ?». Bonsoir Clément.
Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, quel livre tu nous présentes ce soir ?
Alors, ce soir, ça va être « Pourquoi l'amour est un plaisir, l'évolution de la sexualité humaine » de Jared Diamond.
Ok, bah écoute, on t'écoute avec attention.
Eh ben c'est parti. Donc, qui est Jared Diamond ? Eh ben ce charmant monsieur est né en 1937 à Boston. Il est physiologiste, biologiste de l'évolution et actuellement professeur de géographie à l'Université de Californie à Los Angeles. Et Jared Diamond est avant tout connu pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique tels que « Le troisième chimpanzé »,« De l'inégalité parmi les sociétés », également « Effondrement » et le livre que je vais vous commenter ce soir « Pourquoi l'amour est un plaisir ». Donc, quel est le propos général de cet ouvrage ? Eh ben, dans la Pourquoi l'amour est un plaisir, Jared Diamond se donne pour objectif d'expliquer les spécificités des mœurs sexuelles humaines à l'aune des théories de la biologie de l'évolution. Pour rappel, la théorie de l'évolution, initiée par Darwin en 1859 dans son ouvrage De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, explique les mutations de très long terme que subissent les espèces animales selon le principe de sélection naturelle, c'est-à-dire que certaines adaptations permettent aux individus qui les portent de survivre et de se reproduire avec plus de succès que les autres, ce qui fait que ces adaptations surviennent de plus en plus fréquemment dans une population au fil des générations. Du point de vue des caractéristiques sexuelles des différentes espèces animales, le processus de sélection naturelle va ainsi favoriser les individus dont les gènes permettent de produire la plus grande descendance possible. Ainsi, l'auteur va montrer en quoi les spécificités de la sexualité humaine sont optimales du point de vue du principe de la sélection naturelle. Et donc, quelles sont ces caractéristiques si atypiques de la sexualité de l'être humain ? Grosso modo, l'auteur en dénombre 4, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que celles-ci ne sont pas spécifiquement propres à l'être humain de façon indépendante, mais c'est la combinaison de ces 4 caractéristiques qui sont propres à l'homme en tant que tel. La première, c'est tout d'abord une structure familiale de type nucléaire où un couple, père et mère, s'occupent de leurs enfants ensemble. Deuxièmement, l'ovulation cachée des femmes. En d'autres termes, les femmes ne sont pas en mesure de signaler aux hommes, par exemple par le biais de signaux visuels, olfactifs ou comportementaux, les périodes de fécondité et donc leur aptitude à la reproduction. Contrairement par exemple à la femelle chimpanzé qui par exemple a l'élève qui devient rouge écarlate et qui se met accroupie devant son mari pour littéralement signifier sa phase de fécondité. Donc vous verrez que le signalement est relativement beaucoup plus caché par exemple chez les êtres humains, vous en conviendrez. D'accord ? Voilà. La réceptivité, troisième point, la réceptivité sexuelle constante des femmes tout au long de leur cycle menstruel. En effet, contrairement à la très grande majorité des autres femelles du règne animal, les femmes sont en mesure d'avoir des rapports sexuels non seulement pendant leur grossesse, mais aussi directement après, c'est-à-dire lors de la période d'allaitement des enfants. Donc le point clé ici est de voir qu'à la différence des autres espèces animales, la sexualité vise avant tout le plaisir, tandis que les finalités pleinement reproductives de l'acte sexuel arrivent dans un second temps. Et troisième caractéristique, la ménopause des femmes, c'est-à-dire une interruption complète et brutale de leur fécondité, suivie d'une période encore relativement longue de leur existence. Et ces quatre caractéristiques de la sexualité humaine sont, d'après Jared Diamond, tout aussi importantes pour distinguer l'homme du reste des animaux que la taille de notre cerveau ou encore le fait que nous nous tenions debout. Alors, premier point, qui s'occupe des enfants ? Alors, de façon générale, chez différentes espèces animales, Jared Diamond montre que 3 facteurs vont influencer le degré d'implication du mâle et de la femelle auprès de leur progéniture. Le premier point, c'est l'effort initial consenti par chacun des membres du couple dans la production de leur descendance. Ici, il est évident qu'il y a une forte dissymétrie d'efforts consentis entre le père et la mère dans la conception d'un enfant, la mère investissant un temps et un niveau d'effort considérablement plus long que le père. Deuxièmement, les occasions de reproduction manquées dues à la présence prolongée au sein de la cellule familiale. Là encore, les mères sont fortement désavantagées par rapport au père, dans la mesure où celles-ci, après avoir été fécondées, ne sont pas en mesure d'avoir d'autres enfants pendant un temps relativement long qui correspond à la fin de la période de l'allaitement. A l'inverse, vous en douterez, chez les mâles, une fois l'acte reproductif accompli, celui-ci est pleinement en mesure de s'accoupler avec d'autres femelles. La certitude, troisième point, de la paternité. Dernière grande caractéristique pour induire si le père et la mère s'occupent des enfants, le partage des tâches dans le couple, dans le monde animal, la certitude de la paternité. Chez les mammifères à fécondation interne, comme les êtres humains, le processus de maturation d'un embryon se passe au sein de l'organisme de la femelle. Or, puisqu'il est possible que cette dernière ait plusieurs rapports sexuels à l'issue desquels un seul sera associé à la naissance d'un enfant, les mâles ne sont donc pas certains que l'enfant qu'ils ont sous les yeux soit le résultat de leur propre insémination. Et dès lors, ces trois facteurs combinés jouent en défaveur de la femelle et conduisent les mâles à délaisser, dans le monde animal, la plupart du temps, leur couple une fois l'acte reproductif accompli, afin de chercher de nouvelles compagnes auprès desquelles ils pourront s'accoupler de nouveau et ainsi maximiser le nombre de leurs descendants auxquels ils pourront transmettre leurs gènes. Mais alors, dans ce cas, comment expliquer que la plupart des structures familiales humaines soient de type nucléaire ? C'est ici que les autres caractéristiques de la sexualité rentrent en jeu, et tout particulièrement féminines, à savoir la dissimulation de l'ovulation et la réceptivité sexuelle constante des femmes. Sur ce point, deux théories majeures ont été développées afin d'expliquer l'utilité de ces deux caractéristiques de la sexualité féminine. Bien que celles-ci soient antagonistes quant à leurs origines, de la dissimulation de l'ovulation et de la réceptivité constante des femmes, ces théories visent toutes deux à rendre compte de la même chose, à savoir garantir la survie du plus grand nombre d'enfants possible et s'assurer de l'engagement du père auprès des enfants. La première, c'est la théorie du papa à la maison, des biologistes Richard Alexander et Catherine Nohan de l'Université du Michigan. L'idée, c'est puisque le temps de maturation d'un enfant est particulièrement coûteux en effort physique pour la mère, celle-ci va s'assurer de la présence du père au sein de la cellule familiale, du part au moyen de la dissimulation de l'ovulation, incitant les hommes à maintenir leur présence auprès de leur femme s'ils souhaitent que l'acte sexuel aboutisse à la production d'un enfant qui soit effectivement d'eux. D'autre part, la réceptivité sexuelle constante des femmes vient renforcer le point précédent et a pour fonction de limiter les opportunités d'accouplement à l'extérieur du couple par les hommes. Dans cette perspective, ces deux caractéristiques de la sexualité humaine agissent comme un facteur de clarification de la paternité qui renforce la monogamie, seul à même de garantir la transmission des gènes du père et de la mère au plus grand nombre de descendants possible. La deuxième théorie, c'est celle des pères multiples de Sarah Erdi, de l'Université de Californie à Davis. Et elle, cette théorie, prend directement acte de l'importance de l'infanticide dans le monde animal. Et que ce soit par exemple chez les gorilles, les chimpanzés, les lions, mais également dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l'infanticide est généralement le fait d'un mâle adulte à l'encontre des petits d'une femelle avec laquelle il n'a jamais copulé. Pour les mâles, ces petits ne portant pas leurs gènes, il est inutile de consacrer du temps et de l'énergie à la survie de ces derniers. Ils seront par conséquent tués et leur mère sera de nouveau fécondée afin de donner des sens à des petits qui porteront les gènes du mâle en question. Ici, l'ovulation cachée et la réceptivité constante des femmes va dans ce cas permettre aux femelles du coup de s'accoupler avec un grand nombre de mâles et ainsi créer le doute chez ces derniers quant à leur paternité potentielle. Dans ce cas, lorsque le mâle arrive à s'approprier les femelles avec lesquelles il a eu des rapports sexuels, celui-ci ne va pas tuer ses enfants qui pourraient potentiellement être les siens et ainsi s'occuper d'eux. On voit donc ici que la dissimulation de l'ovulation et la réceptivité constante de la sexualité féminine résultent d'une adaptation évolutive des femmes permettant de réduire au maximum la menace que représentent les mâles adultes pour la survie de leur enfant. Toutefois, à la différence de la théorie du papa à la maison, ces caractéristiques sèment la confusion et détruisent la monogamie. Maintenant, troisième point. À présent, une fois que la cellule familiale est constituée, et compte tenu de la très longue maturation et donc vulnérabilité d'un enfant humain, la théorie anthropologique standard insiste sur le caractère, on va dire, universel de la division du travail entre les hommes et les femmes au sein de la cellule familiale. En gros, les hommes à la chasse, les femmes à la maison et à la cueillette. D'après Jared Diamond, si cette théorie était juste, deux prédictions devraient être validées. La première, c'est que les hommes devraient privilégier les activités de chasse à haut rendement, et deuxièmement, que le butin de la chasse devrait être entièrement partagé avec femmes et enfants. Or, il n'en est rien. Comme le montre Christine Hawks de l'Université de l'Utah, chez les Indiens hachés du nord du Paraguay, non seulement les rendements moyens de la chasse des hommes est inférieur au rendement moyen de la cueillette des femmes, et le butin de la chasse des hommes n'est pas partagé avec femmes et enfants, mais avec l'ensemble des membres de la communauté. Dans ce cas, afin de s'assurer de la survie du plus grand nombre d'enfants possible, les hommes auraient donc tout intérêt à renoncer à la chasse pour se consacrer à la cueillette. Deux stratégies que l'auteur nomme respectivement celle du bon père de famille et celle du fanfaron. Quelle est donc la logique associée au maintien de l'activité de chasse des hommes ? Christine Hawkes montre que les hommes adoptant la stratégie donc du fanfaron, c'est-à-dire la stratégie du chasseur, en raison du plus grand prestige social qui en résulte, ont une descendance plus grande que les hommes adoptant la stratégie du bon père de famille. Par conséquent, du point de vue de l'homme et de sa capacité à transmettre ses gènes au plus grand nombre de descendants possible, la chasse, bien que d'un rendement inférieur pour l'approvisionnement de sa femme et de ses enfants, constitue une stratégie viable et permet davantage d'opportunités d'accouplement avec le plus grand nombre de partenaires possible. Modalité, à quoi servent les hommes ? À rien. Pour finir, parlons rapidement de la ménopause et intéressons-nous à ce cas particulièrement intrigant du point de vue de l'évolution de l'espèce humaine, dans le sens où comment, en quelque sorte, la limitation précoce et brutale de la capacité reproductive des femmes permet-elle de maximiser la transmission des gènes au plus grand nombre d'enfants ? Comme le suggère Jared Diamond, la réponse se contient dans la formulation suivante : en faire moins pour en faire plus. Et ici, trois facteurs vont expliquer la logique évolutionniste de la ménopause. Tout d'abord, la longueur de la maturation d'un bébé humain qui nécessite la présence prolongée de sa mère pour lui apporter des soins dont il a besoin, ne serait-ce qu'au niveau de l'allaitement. Le deuxième point, c'est le risque de mort en couche très élevé des femmes en raison de la taille particulièrement importante d'un bébé à la naissance, tout particulièrement, en termes de volume crânien. Et troisième point, le risque important de malformation génétique d'un enfant lorsque la mère a atteint un âge qui dépasse les 40 ans. Donc, cette quatrième caractéristique de la sexualité humaine, la ménopause, permet de limiter le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir au cours de son existence afin de maximiser les chances de survie non seulement de cette dernière, mais également de ses enfants. Donc, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut voir ? C'est que Jared Diamond propose un regard original sur la sexualité humaine. Dans une perspective de très long terme, qui est celle du temps long de l'évolution, notre sexualité a un rôle décisif non seulement dans la survie de notre espèce, mais d'autre part, elle a eu pour rôle de conférer au plaisir une place prépondérante dans celle-ci, et ce bien au-delà de la simple utilité reproductrice que l'on peut observer dans l'immense majorité du monde animal.
Alors, si les hommes ne servent à rien, je ne sais pas si Clément est adepte de douceur, mais ce qui est certain, c'est qu'il est fan de métal, comme vous l'illustre le titre que vous venez d'écouter, Origin of Escape de Monuments. Oui, cette émission, c'est de la science, c'est aussi un peu de folie et de passion. De la passion, parlons-en. Quoi de mieux comme transition pour annoncer la chroniste d'Alice ?
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonsoir Alice.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette spéciale Saint-Valentin ?
Alors chers auditeurs, vous qui en ce début février avez le cœur en fête, attendant impatiemment le moment où le 14 février, vous pourrez enfin célébrer votre amour. Vous qui presque arrivez à la fin de cette émission atypique, avez les hormones en ébullition, je ne voudrais pas vous décevoir en rompant l'ambiance glamour qui règne dans le studio aujourd'hui. Je vais donc moi aussi me prêter au jeu de la Saint-Valentin. En me lançant dans l'écriture de cette chronique, je me suis sentie un peu comme Carrie Bradshaw. Et je me suis dit que mes doigts allaient glisser sur le clavier et que l'inspiration viendrait facilement.
Sur le clavier, vraiment ?
J'ai dit le quoi ? Le clavier de mon ordinateur ? Ah, pardon. Désolée. Mais que nini ! J'aurais pu céder au chant des sirènes du cynisme et m'insurger contre le marketing, la Saint-Valentin, les gens tout nus sur les publicités, les princesses, l'espoir qu'en s'arrosant de parfums Dior, on va pouvoir passer une nuit torride avec Jude Law. Mais non, pas cette fois. Je n'ai pas envie de me révolter. Parce que mes chers camarades de Quad 9 Doc, aujourd'hui, malgré l'humeur de Victor, vous me faites rêver. J'aurais pu aussi vous parler de sexe. Mais Noémie et Clément le font tellement bien. Déjà qu'après toutes ces révélations sur l'orgasme et sur l'utilité de notre sexualité, nous pouvons craindre un baby-boom clermontois dans 9 mois. Essayons de maîtriser un petit peu l'évolution démographique. C'est ma version et c'est la version d'Octoverniat du contrôle des naissances.
Bah voyons Alice, alors ce soir tu ne veux pas parler de sexe, tu ne comprends plus les blagues légèrement pas classe. C'est une grande première, on ne comprend plus rien sur ce plateau. J'espère quand même que les auditeurs ne seront pas trop déçus. Du coup, tu avais envie de rêver sur quoi ?
Eh bien, je voulais vous parler d'amour, ou plutôt de passion. Vous savez, cette passion dévorante qui vous fait perdre tous vos moyens. Ce que j'aime dans la passion, c'est qu'elle nous transporte dans un univers où règne l'insensé. Nos repères disparaissent, nous ne discernons plus le blanc du noir, le vice de la vertu, et d'une certaine manière, tant mieux. La tradition, la religion, la société sont tellement occupées à essayer de normaliser nos comportements que systématiquement, nous sommes poussés à rationaliser nos émois. Et oui, parce que l'être passionné est impulsif, imprévisible. Il est trop susceptible d'altérer l'ordre social. On nous inculque tout au long de notre vie des valeurs qui vont nous permettre, nous dit-on, de distinguer le bien du mal. On nous pousse même à juger l'amour, peut-être pour prévenir les débordements générés par la passion, qui sait. On nous apprend qu'il y a des couples mieux que d'autres, qui ont le droit à plus de reconnaissance sociale. Il n'y a qu'à voir le débat qu'a provoqué la loi sur le mariage pour tous. Le summum étant lorsqu'on accepte d'institutionnaliser son couple, voire même de le contractualiser. La reconnaissance ultime, c'est d'être un couple marié. Un couple de concubins, en revanche, n'est pas considéré. Il ne peut même pas se faire un cadeau un peu trop cher, car le fisc risquerait de taxer cette libéralité entre étrangers. Bref, au sein de la communauté des couples, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et finalement, l'amour n'a pas sa place dans la reconnaissance sociale.
Oui, en même temps, c'est vrai que par définition, la passion n'est pas gérable. Ça ne serait pas un peu une déformation du risque de vouloir conférer un statut social à tout ? Est-ce que l'émotion n'est pas censée rester plutôt dans la sphère du privé ?
Si, tu as certainement raison. Il n'y a qu'à voir la difficulté avec laquelle nous parlons d'amour et de passion. Enfin, de la nôtre, parce que celle des autres, on adore la commenter. En réalité, les décisions que nous prenons plus par passion que par raison, nous ne les assumons pas et nous essayons de les expliquer par des théories plus ou moins fumeuses qui ne dupent généralement pas grand monde. Il me semble que les déchirements entre raison et passion sont permanents chez nous et que finalement ce combat intérieur est éminemment humain. Nous sommes probablement très mauvais pour l'exprimer, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. C'est d'ailleurs le sujet de nombreuses œuvres d'art, qui bien mieux que toutes nos tentatives d'expliquer l'amour, l'illustrent, le génèrent et suscitent l'empathie de leurs spectateurs. Écoutez par exemple. « C'est peu de t'avoir fui, cruel je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. » Ce que je viens de vous réciter, c'est une complainte de Phèdre, qui en matière de passion dévorante et destructrice, en connaît un rayon. Oui, parce que Phèdre adresse ses mots à Hippolyte, qui est en réalité le fils de son mari. Son mari, c'est Thésée, le roi d'Athènes, qui au début de la pièce a disparu. Hippolyte, lui, est amoureux d'Aricie, mais celle-ci est une sœur des Palatines, un clan ennemi. On annonce la mort de Thésée, et du coup le trône est vacant, alors Hippolyte le propose à Aricie, pour essayer de la séduire. Phèdre révèle son amour à Hippolyte, qui est horrifié, alors Phèdre essaye de se suicider, mais sa servante l'en empêche. Et finalement, Thésée n'est pas mort et revient. Hippolyte veut révéler à son père son amour pour Aricie, et Phèdre est rongé par la culpabilité. Sa servante, inquiète pour elle, dit à Thésée qu'Hippolyte a essayé de séduire Phèdre. Et Thésée bannit Hippolyte et demande à Neptune de le venger. Phèdre veut le faire changer d'avis, mais elle apprend qu'Hippolyte est amoureux d'Aricie. Et du coup, elle est furieuse et elle ne veut plus le sauver. Hippolyte part, après avoir promis à Aricie de l'épouser hors de la ville. Mais on apprend sa mort, causée par un monstre marin. Après avoir chassé sa servante qui, de désespoir, s'est jetée dans les flots, Phèdre révèle la vérité à Thésée. Mais comme elle avait pris du poison, elle meurt.
Oui, alors là, on a une sacrée illustration des dégâts que peuvent provoquer ou que peut provoquer la passion. Mais quand même, Alice, tu veux vraiment persister dans l'éloge de la passion parce que, comme l'affirment des philosophes très connus, les histoires d'amour finissent mal, en général.
Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que la passion est fascinante. On sait qu'elle peut nous détruire, qu'elle détient les clés de notre plus grand bonheur, mais aussi celles de notre plus grand malheur. Avez-vous vu le film de Nagisa Oshima, L'Empire des Sens ? Il raconte l'histoire de Sada Abe, une ancienne prostituée devenue domestique, qui va vivre une relation érotique et passionnelle avec son patron, Kichizo. Leur relation connaît une véritable escalade dans les jeux sexuels, et finalement, pendant qu'ils feront l'amour, Kichizo demandera à Sada de l'étrangler sans s'arrêter, quitte à le tuer. Sada accepte, l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure, avant de l'émasculer. Puis elle écrit sur la poitrine de Kichizo avec son sang, Sada et Kichi, maintenant unis. Ce film a suscité la fascination de ses spectateurs. Et lorsque l'on évoque le crime passionnel, le souvenir de cette histoire ne peut laisser indifférent.
Bah c'est vrai que le crime passionnel a une résonance particulière. Il a quand même aussi un attrait romantique qu'on a du mal à dépasser. Mais est-ce que, toi qui es juriste, et je sais que tu veux forcément parler de droit, sinon ce n'est plus toi, est-ce que le droit concède au crime passionnel un traitement spécial ?
Plus maintenant, ou alors plutôt aggravé d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en 1810, le code pénal était ainsi rédigé. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable. Néanmoins, dans le cas de l'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Le texte a changé, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, les juridictions avaient tendance à mystifier le crime passionnel et à l'excuser. Cette tendance s'est interrompue en 1994, car le statut de conjoint de la victime est devenu une circonstance aggravante pour l'auteur du crime. Ce traitement sera par la suite étendu aux concubins, partenaires de Pax et ex en 2006.
Donc décidément, notre droit n'est pas très romantique. Mais là, c'est quand même pour le mieux, non Alice ?
Oui, sans doute, ouais.
Du coup, tu nous as pas trop parlé de sexe, pas fait trop de blagues, parlé de romantisme. Je suis sûre que tu nous as choisi une chanson qui déchire pour clôturer tout ça.
Ah oui, là, j'ai décidé de finir dans le pathos et de relever un petit peu le niveau. Et je pense que cette chanson, ce sera une grande première sur Radio Campus. Je vous laisse écouter Requiem pour un fou de Johnny Hallyday.
Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide. Curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie?
vie sans elle. Je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours.
La passion est parfois tellement surprenante qu'elle conduit Alice à opter pour un titre de Johnny Hallyday, Requiem pour un fou. Cette émission est décidément riche en rebondissements. Ce n'est pas encore fini. Passons à l'agenda des doctorants.
L'agenda des doctorants.
Le mois de février est certes le mois de la Saint-Valentin, mais il s'agit surtout d'une des périodes de l'année où Clermont-Ferrand respire la vie, où les touristes arrivent en masse et où les rues se réveillent. Oui, le mois de février est consacré au festival du court-métrage. Que vous soyez cinéphile ou que vous ayez envie de rencontrer du monde, vous pourrez vibrer du 5 au 13 février devant nombre de séances de court-métrage, ainsi que lors de nombreuses soirées consacrées à l'événement dans les bars clermontois. Sans oublier le retour de l'Electric Palace, place Gambetta au Salin, qui vous propose des concerts gratuits tous les soirs du festival de 18h à 1h du matin. C'est donc l'occasion pour les célibataires de provoquer les rencontres avant le jour J auquel nous avons consacré cette émission de la Saint-Valentin. Autre moyen pour rencontrer du monde, surtout quand vous êtes doctorant, parce qu'on sait bien, doctorant, ça favorise pas forcément les rencontres. Il y a ma thèse en 180 secondes qui relance les inscriptions à partir de maintenant, donc avis aux amateurs. Et pour le jour J, que faire pour surprendre ça ou son dulciné ou simplement la personne qui vous plaît? Vous, sur le plateau, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Noémie?
Un massage.
Un massage, Alice?
Des fleurs.
Et vous, les garçons?
Bah, trouver une copine.
Le cri du cœur d'Arthur.
Ouais, moi, trouver une copine pour Arthur.
Merci, c'est gentil.
Et Clément?
Un bon resto.
Un bon resto.
Tu voudrais pas plutôt la copine d'Arthur?
Ah si, si, ça peut se négocier.
Voyez, et ben voilà. Donc plein d'idées pour la Saint-Valentin, beaucoup de propositions. Pour ma part, je pense que c'est pas forcément difficile de séduire quelqu'un. À défaut d'aurore boréale ou même de pouvoir dormir sous les étoiles, un verre de vin dans les sommets auvergnats pour assister au coucher du soleil, ce serait déjà un joli début de soirée. Lorsque les températures deviennent trop fraîches, un moment dans un bar à vin, tel que le temps d'un verre ou le Saint-Jean-Hiver, pourquoi pas un petit restaurant s'il fait faim. Clermont et ses ruelles regorgent de petits endroits sympas, tels que le bistrot d'à côté, le Si-Si-Si. Ou pour les plus protocolaires ou pour séduire Clément, il reste les restaurants gastronomiques à l'image du Leclerc ou du restaurant Goût et Couleur. Le tout suivi d'un dernier verre avant de rentrer, sous la pluie, pour un instant simplement parfait. Un peu de musique, quelques bougies. Bon, pour la suite, je vais quand même pas tout vous dévoiler, je vais laisser votre imaginaire travailler encore un petit peu.
En fait, pour te séduire, il faut te faire boire, si j'ai bien compris.
Ça marche pas mal, puisque Noémie l'a déjà expliqué dans ses chroniques, l'alcool a des effets assez proches de la rencontre amoureuse. Après, pour ceux qui souhaitent passer la soirée en charmante compagnie, mais ne savent pas encore avec qui, ni où, il reste plein d'autres types d'endroits à visiter où il y a de l'alcool, effectivement, tels que l'Insolite ou le Caveau des Anges. Puis qui sait, vous finirez peut-être vous aussi la nuit dans les étoiles. Et si vous ne voulez pas attendre jusque-là, si vous souhaitez rencontrer Arthur, qui donc cherche une copine pour la Saint-Valentin...
Il boit pas, je suis dans...
Il boit pas, mais il y a d'autres moyens de provoquer l'effet de l'alcool.
Et son numéro de téléphone est le 06 83...
Vous n'avez même pas besoin du numéro de téléphone, il existe une superbe façon de faire des rencontres, c'est de nous rejoindre au Delirium à partir de 19h30 pour un nouveau Doctovert, comme chaque premier mercredi du mois. Donc d'ici 30 minutes, vous pourrez rencontrer Arthur. Si
et
malheureusement vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous retrouver à l'antenne dès le 18 février et en podcast très rapidement sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctovert www.doctovert.fr ou encore sur le Facebook de l'association. A très vite, passez une bonne soirée, bisous bisous.
Vous venez d'écouter Quoi de notre doc, l'émission de Doc Tauvergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.